Bon, en tout cas, on n'est pas arrivé au bout de ce sujet. Je pense que on va encore avoir de longues émissions. On pourra débattre sur
les chiffres sont ce qu'ils sont.
Sur ce passe.
Encore ce matin, ils se sont aggravés, les chiffres.
Oui, oui. Non, mais
après, moi,
après les chiffres, tu leur fais toujours dire un peu ce que tu veux.
Dire. C'est ce que j'allais dire.
Non, non, mais attends.
Laisse-moi finir.
Bruno, je suis d'accord avec toi. Les chiffres, tu peux faire dire ce que tu veux. Après, il y a des chiffres qui sont quand même réels, qui arrivent là de l'Est et qui sont en train de tout doucement arriver chez nous.
Je suis
donc,
d'accord.
Donc, il y a une vraie emprise. Une vraie emprise. Il comprend en Allemagne.
Paradoxalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais paradoxalement, je te prends le cas des Hautes-Alpes. Si on est monté en flèche, c'est parce qu'il y a eu un problème, un cluster sur un regroupement. Et du coup, comme on est une petite population de 150 000 habitants, paf, tout de suite tu montes. Mais c'est parce que tu as identifié un problème.
Oui, oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Là, je ne te parle pas du local. Moi, je te parle de l'ambiance générale européenne aujourd'hui.
Moi, je te parle du local. Et c'est vrai que je trouve un petit peu, par exemple, que parce qu'on a eu un cluster qui d'un coup te fait monter le nombre d'incidents sur le département, on colle le masque à tout le monde, à tous les enfants. Tu vois? C'est là que je dis qu'il faut savoir arriver à interpréter les bons chiffres et à savoir s'il y a un risque collectif, comme tu le dis en Allemagne ou autre, parce que là ça monte, ça explose, etc. Et les chiffres locaux qui sont identifiés parce qu'il y a eu un problème. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, tout à fait. Là, je te parlais uniquement.
Le dernier taux d'incidence pour les Hautes-Alpes.
Ouais.
C'est le chiffre officiel. Alors après. Comme tu dis, comment sont calculés ces chiffres, je ne sais pas vraiment. On est à 93,1, la France est à 94,5.
Ouais, ouais. Taux d'incidence. Je te disais 90 tout à l'heure.
Vous imaginez, on est déjà presque à 100 et on est au mois de novembre, mi-novembre.
C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'on peut être...
À ce rythme-là, on sera à plus de 200.
C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'on peut être confiant de pouvoir aller faire du ski sans le passe.
On a fait x2 en un mois. Effectivement, on était en dessous des 50 fin octobre, puisqu'on avait enlevé le masque des enfants à l'école. Et on est x2 en un mois.
Oui, ça augmente.
Mais Thierry a raison, c'est une connerie à l'extérieur de demander le pass sanitaire. Après, dans les hôtels, restaurants, on peut en débattre. Pourquoi pas? Mais à l'extérieur, quand on est à l'extérieur, si on reste à 1 mètre ou 2 mètres de nos voisins,
oui,
mais le problème.
Attends. Nous, d'ailleurs, on est sur la terrasse.
Ouais. On est d'ailleurs ouvrir, là.
Michel,
quand on fait du ski, je suis franchement désolé, mais on connaît la densité des fils, je suis désolé. Et le civisme dont on parle, eh bien, je suis franchement désolé, tu veux bien le faire une fois, mais la deuxième fois, je veux dire, tu vas te rapprocher, etc. Donc, anticiper, c'est gérer.
En plein air.
Mais en plein air. Le seul problème, c'est que si on fait un focus, peut-être vous avez raison. Sauf qu'il faut prendre une résolution dans l'ensemble, dans la globalité. Et à un moment donné, il y a des politiques qui sont là et qui doivent prendre des décisions globales. C'est comme ça. Après, je reviendrai un mot sur le pass. Oui, non, mais attends.
Laisse-le donner son avis, s'il te plaît, Bruno.
Sur le pass, il y a un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que. C'est pas que je suis à fond, c'est qu'à un moment donné.
C'est Bruno qui est à fond.
Ah oui, c'est
Bruno.
En ce qui concerne le pass, il y a une fois de plus celui qui ne veut pas se vacciner et qui ne veut pas effectivement adhérer à la solidarité nationale, entre guillemets, parce qu'il faut entendre aussi ça. Il y a un moment donné, on ne sait pas régler les choses d'un claquement de doigts et on ne sait pas le maîtriser de suite. Donc le pass est un élément qui donne à un moment donné une liberté d'action dans la mesure où on a fait certaines actions, notamment la vaccination. Moi, j'avoue que je me plie volontiers à ça et il faut savoir qu'en termes de liberté, j'avoue très sincèrement que dans une situation particulière dont on sait que c'est transitoire, je veux bien, moi, à un moment donné, obtempérer et dire, ok, je vais sortir mon téléphone et mon pass, et pour le coup, si c'est la bonne solution pour éradiquer ce virus dans les meilleurs délais, moi, je m'y emploie volontiers. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font. Quand vous allez au restaurant, il y a peu de gens qui repartent parce qu'ils n'ont pas leur pass.
Pour éradiquer ce virus au plan mondial, on est bien dans une pandémie. Non, mais laisse-moi. On est bien dans une pandémie, on est d'accord. On sait ce que c'est qu'une pandémie. Et quand on voit que les pays pauvres ont énormément de retard à la vaccination, on ne s'en sortira jamais. Tant qu'on n'aura pas vacciné tout le monde, les pays pauvres y compris. Et cette question-là, jamais on se la pose, parce que dans 10 ans, on est encore avec ce virus. Si on ne prend pas cette décision aujourd'hui...
Il y a le système COVAX qui a été mis en place au niveau de l'Europe.
Qui est insuffisant.
Ah bah, peut-être insuffisant, mais n'empêche qu'il y a chaque pays qui permet d'acheter des doses pour envoyer dans les pays justement pauvres.
Vous dérivez du problème. Toi aussi, tu es un peu dérivé. Moi, on était sur le pass en plein air. Le problème était sur le pass en plein air et sur les stations de ski.
Il était sur le pass en plein air, Michel.
Oui, mais j'ai pas tout compris. Alors.
Bah si, il a tout simplement dit
sur les fils.
Quand tu vois le peuple qu'il y a effectivement en bas.
Je suis persuadé qu'on peut le régler.
Non, mais attends.
Je suis persuadé qu'on peut le régler par la distanciation. Les gens sont quand même. Ou le port du masque,
approche-toi.
Tu mets le port du masque si tu veux sur les lignes d'attente. Le conditionnement au pass sanitaire qui m'interpelle sur les stations de ski. C'est pas le port du masque.
En plus, vous avez fait la démonstration que tout le monde se le passe et tout, et qu'il y a très peu de contrôle. Pour le coup, je vais te dire, il y en a
beaucoup
qui s'exonèrent. Il y a beaucoup de gens qui s'exonèrent, semble-t-il, de ce pass. Bon, pour le problème est réglé. Il va trafiquer son truc.
Ce que je veux dire, c'est que c'est parfaitement hypocrite alors.
Mais voilà,
c'est exactement. Mais est-ce qu'on n'est pas dans nos discussions tous là?
Je sais pas, mais on parlait tout à l'heure de responsabilité des politiques.
Moi j'ai une solution.
Si on le fait juste de manière démagogique pour dire regardez bien, si jamais ça s'enflamme, j'aurais pris des précautions, et qu'en fait on sait que c'est inapplicable et inefficace, ça sert à rien, c'est stérile.
Alors il faut prendre
Poutine, il a retiré le pass, pass sanitaire, très rapidement, parce qu'il s'est aperçu que ça marchait pas dans ses commerces.
Mais pour le coup, c'est pas forcément la meilleure idée.
La base,
c'est n'importe quoi.
Je suis d'accord avec toi. Mais il a retiré parce qu'il a vu que dans ses commerces, ça ne marchait pas. Et tu vis certainement dans une ville où tu peux dire que ça ne marche pas très bien.
Même dans un village. Moi, je suis dans 6 000 habitants. Mais on le sait tous.
Voilà.
Que aujourd'hui, on applique une mesure qui est appliquée par civisme, mais qui est absolument incontrôlable et incontrôlée.
Ouais, après, on fait appel.
Qui atteint malgré tout aux libertés.
Oui, mais après, on fait appel à la bonne volonté de chacun, comme disait Michel. Il s'y plie volontairement, pensant que ça va pas non plus être éternel, qu'on va devoir sortir ce pass sanitaire. Donc, je comprends sa position. Je comprends la tienne. Mais je peux comprendre aussi que les personnes soient d'accord pour le faire, parce qu'il y en a qui sont d'accord pour le faire, pour le bien de la société dans laquelle ils évoluent.
Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les gens qui ont fait le choix de ne pas se vacciner, ce sont pas aussi forcément des irresponsables qui font n'importe quoi dans leur vie quotidienne. Parce que les gens, ils peuvent prendre aussi des précautions, et chose que les gens vaccinés le font peut-être moins.
Et moi, il y a un truc qui m'interpelle d'ailleurs sur le ressaut qu'on évoquait et l'explosion, notamment dans les Hautes-Alpes, c'est que je suis obligé de voir la concomitance avec le moment où les tests sont devenus payants. Oui. Et on a rendu les tests payants pour punir les désobéissants qui refusaient de se vacciner. Résultat des courses, je pense qu'on a accéléré la diffusion du virus, puisqu'un certain nombre de gens qui allaient se tester, qui ne voulaient pas se vacciner, mais qui allaient se tester et qui obtenaient leur passe sanitaire de cette manière, ont plus forcément accès aux tests. Et il y a de la contamination qui se développe.
Ça pose un autre problème. C'est qui payait les tests? Non, mais parce que là, il y a tout un débat.
C'est qui payait les vaccins? Je te renvoie la question.
Et les vaccins,
c'est pareil.
Oui, mais c'est des milliards.
Vous savez, dans les deux cas,
personne ne parle des trous de la sécu aujourd'hui. On est à 30 milliards, plus de 34 milliards.
On avait développé les autotests et on dit, les autotests, ils pourront plus être validés par les professionnels de santé. Vous pouvez plus faire des autotests. Il faut aller faire des tests en pharmacie. On a eu un réflexe punitif qui, à mon avis, est jamais le bon, que ce soit avec des enfants ou des adultes, en disant, oulala, vous êtes vilain. Puisque vous êtes vilain, puni, vous allez payer vos tests. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus testé, qui deviennent des bombes diffuseurs de virus ambulantes, et qu'on ne les contrôle pas, parce que de toute façon, on ne les vaccinera pas de force. Et du coup, cette mesure de faire payer les tests qui pouvait être habillée de bon sens en disant « Oh là là, la terrible solidarité nationale !» Non. Parce qu'en fait, la vaccination, elle coûte très cher aussi, et si on va commencer à chercher les gabegies, on en trouve partout. Mais au-delà de l'impact financier qui n'a pas été étudié, c'est vraiment une mesure punitive pour être une mesure punitive, et à mon avis, elle est contre-productive. On verra à terme. J'ai pas d'études scientifiques à l'appui de ce que je viens d'énoncer. C'est un sentiment.
On va changer de sujet, parce que sinon on peut faire 2 heures. Et on va parler toujours dans l'allocution d'Emmanuel Macron. le retour du nucléaire. Voilà, il a annoncé la construction de nouveaux réacteurs. Alors, vous vous souvenez, lors du quinquennat de François Hollande, on apprenait l'inverse, hein, qu'on allait progressivement diminuer cette source d'énergie, mais visiblement, on change de fusil d'épaule. Arrêter le nucléaire, c'est bien, mais pour le remplacer par quoi? C'est ça la bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dès l'instant où on amène une source d'énergie, et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Alors, c'est contre l'éolien, c'est contre les photovoltaïques, c'est contre le charbon, évidemment. Ça, je dis évidemment, parce qu'il y a encore des pays qui tournent au charbon. Enfin, c'est quoi la solution, Thierry?
Je sais pas, mais en t'écoutant, j'imagine un truc. C'est une sacrée girouette, quand même, le président Macron. Tu sais, si on lui colle une dynamo, on arrive à faire de l'électricité, parce qu'il tourne tellement
au début
vite.
De son quinquennat, il était
parti. Tellement rapidement d'avis qu'on
peut pouvoir essayer un truc. Au début de son quinquennat, il était d'accord sur le principe de, effectivement, notamment, c'est lui qui a arrêté.
Mais oui, il fait
Zonaï. Ouais, c'était programmé, ça.
C'était programmé, mais il l'a quand même validé, il a continué,
il était pas
etc.
De la,
aujourd'hui, effectivement, bah, il peut aussi changer d'avis dans le sens où il se rend compte que, ben c'est quand même l'énergie la moins polluante.
Alors, il le savait avant, ça.
C'est absolument pas l'énergie la moins polluante.
Bah si.
Il le savait avant.
Attends, elle génère des déchets qui sont radioactifs pendant 500 000 ans.
Oui.
Comment tu peux dire c'est l'énergie la moins polluante?
Bah, alors, la moins polluante, c'est l'hydroélectricité.
C'est qui ne produit pas de carbone à l'instant
l'environnement,
T. Voilà. Mais c'est certainement l'énergie la plus polluante qui soit. C'est refiler un bébé aux générations futures qui est terrible. On va s'exonérer du truc en disant regardez, on avait développé des centrales nucléaires parce qu'on a fait quelque chose pour le carbone. Mais par contre, démerdez-vous avec les 200, 300 000, 500 000 tonnes de merde qu'on vous a laissé.
Quand tu as dit ça, tu n'as rien dit, Thierry, parce que.
Mais sauf que Thierry, en même temps, il dit, et il n'a pas tort, ok, moi, je suis un peu de ton avis, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On produit des. Parce qu'on veut passer toutes les voitures à l'électricité.
C'est ça, voilà.
Comment on va faire?
Parce qu'on ne pose pas la bonne question.
Un ancien de la boîte. Comment on va faire au moment pointe le soir, déjà?
Parce qu'il
y a le chauffage qui démarre tous les soirs à 18 h, l'hiver, quand il fait très froid, bon. Il fait de moins en moins froid.
Ouais.
Mais bon, parce que tout à l'heure, effectivement, dans le débat d'avant, on n'a pas parlé du débat qui reste pendant sur qu'est-ce qu'on devient le jour où il n'y a plus de neige dans ce département.
Oui.
Parce qu'il faudra quand même qu'on se la pose la question.
On en parlera. C'est la bonne question. C'est parce qu'on ne se pose pas la bonne question.
Mais
la question,
ce n'est
pas comment
on continue
à produire la même quantité et à dépenser la même quantité d'énergie d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la manière dont on la produit, ce sera nuisible. La question, c'est comment, demain, on consomme de moins en moins d'énergie.
La
seule énergie qui ne pollue pas, c'est celle qu'on ne consomme pas. Après, sinon, on ne fera que passer de Carib dans Scylla. C'est-à-dire qu'on va arrêter la production carbonée, qui est une catastrophe, pour mettre à la place de la production nucléaire, qui est une catastrophe. Kiff, kiff. La vraie question, c'est aujourd'hui, comment on moderne nos déplacements, comment on transforme notre société pour être moins dépendant de l'énergie et consommer moins d'énergie.
Et la réponse, mais la réponse.
Eh ben, je te donne une réponse concrète. J'ai construit une maison, je suis autoconstructeur, j'ai construit une maison isolée en paille, par exemple, qui est une maison j'ai un trou, mais qui est indépendante en énergie,
qui est autonome.
Pour me chauffer, et on est une famille de 5, sur 140 mètres carrés, on utilise une demi-stère de bois par an.
D'accord.
Et
dans un bâtiment, comment on fait?
Et c'est pareil. Ça le problème.
Mais pareil, si tu renforces l'isolation de ton habitat, tu consommes moins d'énergie pour le chauffer. Si tu utilises l'énergie solaire pour chauffer ta maison, utilises moins d'énergie pour la chauffer. À partir du moment où tu utilises moins d'énergie, tu es dans un cercle vertueux. Si tu as la même consommation d'énergie, que tu as la même passoire thermique, que ce soit branché sur l'électricité ou le gasoil, c'est kiff.
C'est-à-dire qu'avec ce principe, vous êtes capable, dans cette idée, vous êtes capable d'apporter de l'énergie puissance 10 ici, à ce moment-là, et dans ces conditions. Je ne vois pas comment. Il faut effectivement l'outil de production qu'on puisse, sur lequel on appuie le bouton 50, 70, 100, 150%.
Mais il ne faut pas aller à 150%.
Demande, elle est.
Faire baisser la demande.
Je partage pleinement, et je suis partisan de ça. Celui qui est écologique, qui est écologiste aujourd'hui, un, il ne prend plus l'avion, deux, il n'a plus de bagnole.
Par exemple.
Électrique, même électrique. Mmh. Je suis franchement désolé. Et là, ça rejoint exactement ce que tu dis. On va économiser de l'énergie, pour le coup, on ne pollue pas. La seule qui soit propre, c'est l'énergie qu'on ne pollue pas. Dans ce cas-là, changer une société planétaire, parce qu'il n'y a pas
que... Oui, il n'y a pas que la France, on est d'accord.
Et l'aspect économique. Aujourd'hui, tu disais, Jean-Claude, le coup d'avant, qu'il y avait 14% de Français qui étaient dans le seuil de pauvreté. Mais comment on va faire demain? Parce que le problème aujourd'hui, comment on fait la mutation et la transition, effectivement, de notre situation aujourd'hui, en évacuant peut-être le nucléaire, ou je sais pas, comment on peut aujourd'hui apporter toujours autant d'énergie pour satisfaire, entre guillemets, le confort et les industries, comment on peut faire. Il n'y a que aujourd'hui, il y a, même si ça ne plaît pas, et ça ne me plaît pas davantage, il n'y a que le nucléaire qui peut répondre à cette question aujourd'hui.
Dans le sens où on est aujourd'hui.
Tu peux mettre aussi 50 millions de personnes derrière des pédaliers et leur faire tous tourner la pédale. Et
mais on n'est plus en démocratie.
C'est exactement ça. Et souvent, quand on discute des questions énergétiques, quand par négawatt,
on va instaurer le pass cycliste.
On le compare comme ça, en disant aujourd'hui, un individu lambda, un Français lambda, a à sa disposition l'équivalent de 50 esclaves dans le moteur de sa voiture, dans tous les appareils qu'il a à la maison. C'est comme s'il avait, il y a 10 000 ans, 50 mecs qui travaillaient pour lui. Comment on réduit ça et comment on devient moins dépendant de ça pour avoir besoin de moins produire d'énergie et donc de moins polluer. Ça passe, quand on parle de révolution énergétique, ça passe par un renversement du dogme. Et ça veut dire effectivement, on ne vit plus comme on a vécu jusqu'à présent. Et on tire un trait sur les 40 années de croissance et les 30 glorieuses que votre génération et la mienne en partie a vécu. On change le paradigme. En profondeur. Ça veut pas dire je vais dans une caverne et je me chauffe avec deux silex et un bois. J'ai une maison, j'ai une bagnole, j'ai un ordinateur.
Ouais.
Sauf que j'ai un chauffe-eau solaire, sauf que j'ai une maison passive, sauf que j'essaye de réfléchir à mes consommations, sauf que je ne prends plus l'avion, sauf que je suis pas encore suffisamment performant et il faut encore qu'on améliore ça. Mais les sources de consommation d'énergie et de production de carbone, elles sont diverses. C'est pas juste prendre la bagnole. C'est aussi les fringues. C'est aussi la consommation quotidienne. Si j'achète mes produits locaux, fatalement, ils ont un bilan carbone qui est meilleur que si j'achète des pommes ou des poires qui viennent d'Argentine. Si je recycle des fringues, par exemple, on parlait de la petite ours tout à l'heure, si on consomme différemment, on améliore aussi son bilan carbone. Ça veut dire réinterroger vraiment le modèle et en particulier mettre un terme à une société de consommation effrénée qui nous emmène dans le mur. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, le mur, on va le prendre et nos gamins vont payer la facture.
On parle de décroissance, donc.
Bien sûr qu'on parle de décroissance. En tout cas, d'alter-croissance, parce que derrière, dans la notion de décroissance, je sens bien pour les baby-boomers, c'est absolument insupportable. Il y a la notion de baisser son niveau de vie.
C'est pas pour les baby-boomers. On garde le niveau de vie, voire même on l'améliore.
On consomme autrement.
Mais t'es pas
obligé d'aller passer tes vacances de février aux Bahamas. Je suis désolé.
Dis-toi une chose, c'est que.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Par contre, les 2% qui ont les moyens et qui vont passer leurs vacances hiver aux Bahamas, ils font un crime contre l'humanité.
Par rapport aux 14% de pauvres. Ceux qui polluent le moins.
Mais non, je dis pas comme toi.
Pas forcément.
Parce que s'ils polluent, c'est parce qu'ils sont dans des HLM non isolés.
Je suis d'accord avec ce que dit Thierry, c'est qu'il faut globalement changer le système. Oui. Quand tu viens me dire c'est les pauvres ils polluent pas, c'est pas vrai
parce qu'il a fait une allusion là-dessus, il faut qu'on change tous notre mode de vie, mais c'est pas facile
et c'est vrai que la première économie tout à l'heure il y a que le nucléaire pour nous sortir de ça et tout.
Aujourd'hui.
Mais le problème, c'est ce que disait Thierry, c'est la consommation. On veut tous plus de consommation, plus de confort. Il y en a qui mettent la clim à tour de bras, et on n'arrête pas là-dessus. Alors, donc, à un moment donné, oui, il faut changer. Il faut changer, mais ce n'est pas les uns ou les autres.
Le jour où on va aussi. Les plus riches en priorité.
C'est nul, c'est le crypto, comment il disait Jean-Claude, le crypto communiste. C'est le retour.
On est deux pour une fois, c'est rare qu'on soit deux, on en profite pour exploiter l'antenne.
C'est beaucoup. Je préfère le discours de Thierry. Quand tu es comme ça, tu n'es pas bon, Jean-Claude.
Ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Mais je comprends que ça te taquine un peu. C'est normal d'ailleurs,
Je voudrais revenir sur les vacances aux Bahamas et tout. Moi, je ne suis pas pour les vacances désaisonnées ou autre.
Mais pourquoi
d'un autre côté, l'argent qu'on amène à ces gens-là, comment on fait pour. Parce qu'il faut, c'est une sorte de répartition de la richesse aussi. Je dis pas que quand on fait du tourisme, on enrichit quelque part quand même, on crée de l'activité dans ces pays-là.
C'est évident. Ça, on peut pas le retirer.
Je prends un exemple tout con. L'accident qu'il y a eu des trois Français qui sont morts au Népal.
Ouais.
Si on enlève l'activité touristique du Népal, on leur enlève pratiquement 80% d'entrée des devises. Je suis d'accord avec toi, c'est une activité polluante, parce que pour prendre l'avion pour aller au Népal, tu as un impact carbone important. Mais d'un autre côté, tu amènes une activité économique.
Juste à côté du Népal, tu as le Bhoutan.
Ouais.
C'est un pays qui est très frontalier du Népal.
Et Challenge aussi.
Où ils ont, et Challenge, effectivement, mais tu as le Bhoutan, où ils ont réfléchi à un modèle de développement depuis déjà plus de 25 ans, où ils ont essayé de transformer aussi, de ne pas modifier leur société traditionnelle et leur manière de voir les choses. Ça engendre un certain nombre de sacrifices. Et ils s'en sortent aussi. Ceci dit, je n'ai pas dit qu'il faut arrêter le tourisme. Je suis élu, je suis en Val-Gaudemar. Je suis pas complètement gaga. Je dis, il faut faire muter les choses pour les rendre plus acceptables sur le plan écologique, faute de quoi on emmène l'humanité et les générations futures à la catastrophe.